France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sirotent l'actualité en cocktail avec un petit parasol hein, pour décorer le tout. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Henri Vernet, bonsoir. Du Parisien aujourd'hui en France. Également Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir. Du quotidien britannique The Telegraph. Le journaliste et écrivain Arnaud Vivian, bonsoir.
Bonsoir.
Et également Mathieu Delahousse de l'Obs, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons de salaire, version Carlos Ghosn, d'élections législatives et du premier mois d'Emmanuel Macron. Mais juste avant, nous recevons Nicolas Deliès. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes journaliste spécialisé en faits divers. Et avec vous, nous allons revenir donc sur l'affaire Grégory, qui donc revient sur le devant de la scène 33 ans après les faits. Aujourd'hui, le procureur général auprès de la cour d'appel de Dijon, Jean-Jacques Bosque, a fait le point sur l'avancée de l'enquête, disant ne pas connaître l'identité du ou des meurtriers. Il a toutefois fait état d'expertise en écriture, je cite, confondante concernant la grand-mère et la grande-tante de l'enfant assassiné en 1984. Alors ce soir, deux membres de la famille Villemain sont encore en garde à vue. Un autre point de ce procureur est attendu demain, mais Nicolas Deliès, ce qui est étonnant, c'est hier, quand c'est réapparu, quand cette affaire Grégory est réapparue, déjà, premièrement, ça parle à tout le monde. Affaire petit Grégory, ça parle à tout le monde. Et tout le monde, à un moment, s'est de nouveau remis en tête ce jour de 1984 où on a découvert l'assassinat de cet enfant. Pourquoi, à votre avis, ça a marqué un pays à ce point, cette affaire?
Déjà, la première chose, c'est que c'est le meurtre d'un enfant. Je crois que l'image d'un enfant qui est flottant dans une rivière, c'est absolument odieux et je pense que ça interpelle tout le monde. Donc d'abord, le premier registre, c'est l'émotion. Donc tout le monde a été marqué par cette affaire à cause de ça. Ensuite, une enquête qui a duré plus de 30 ans. Donc ça aussi, forcément, tout le monde s'est imprégné avec des rebondissements incroyables et surtout une piste qui s'est toujours focalisée autour d'une famille. Et donc on est dans une comédie humaine noire où tout le monde peut un peu s'y reconnaître, retrouver différents registres que peuvent être la jalousie ou des choses comme ça. Donc tout le monde peut par nature que s'intéresser à cette histoire.
Et en plus, il y a un contexte social aussi qui se déroule. Enfin, on a l'impression que tout est mis en place finalement pour ce fait divers.
Exactement.
C'est ça.
Exactement.
Mathieu Dehaus, vous occupez des affaires judiciaires justement pour l'Obs. Vous n'avez pas commencé avec l'affaire Grégory. Vous avez commencé après.
Alors, j'avais 11 ans.
Voilà, exactement. Et donc, justement, mais quand on est aujourd'hui journaliste judiciaire, est-ce que cette affaire, finalement, même si on ne va pas la traiter forcément dans sa carrière, est-ce qu'elle est quand même quelque part dans un coin d'une rédaction en se disant, il y a encore cette affaire Grégory?
Elle l'est pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, mais elle marque surtout un tournant, à mon avis, très fort sur la justice criminelle. On a connu la révolution des aveux, avec la façon dont désormais les avocats pouvaient rentrer en garde à vue, etc. La révolution de l'ADN, et l'affaire Grégory est passée par là. Cette affaire, si demain et dans les semaines qui viennent, elle parvient à un dénouement et donc ce retournement incroyable qui serait d'avoir une véritable vision sur le ou les auteurs du crime qui a provoqué la mort de Grégory, ça sera la révolution de la data, la révolution des données compilées par la gendarmerie avec une opiniâtreté absolument forte. Il y a un gendarme qui me disait hier, la gendarmerie ne lâche jamais, avec un air extrêmement martial, mais tout ce qui s'est passé ces dernières années sur les pièces de Grégory est absolument fascinant, parce qu'on se souvient qu'on a exploré un demi-timbre, on recherchait des piste ADN, à chaque fois ces scènes étaient polluées, comme disent les experts de la police scientifique, parce qu'il y avait des traces d'autres personnes. On a cherché dans les cordelettes, y compris à l'intérieur des cordelettes, avec des méthodes de micro-dissection faites par un laboratoire de province. Et il y avait, par ailleurs, ce qui n'avait pas été exploré, c'est tout ce qu'on appelle le data mining aujourd'hui, c'est de voir une par une les dépositions, les dates, les heures, les personnes qui ont été évoquées, et rassembler ce que ne peut pas faire forcément un cerveau et le faire par l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est possible, mais ça coûte très cher et c'est une révolution qui, si elle se provoque, sera un tournant criminel, mais qui est une justice d'un luxe extrême.
Nicolas Deliez, est-ce que c'est unique comme affaire en France ? Est-ce que dans l'affaire, dans l'histoire judiciaire, est-ce que ça soit aussi long, qu'on ait mis autant de temps à traiter, qu'on en soit encore là 33 ans après ? Est-ce que c'est unique ?
Elle est unique à plus d'un titre, cette histoire, ne serait-ce que par les rebondissements qui ont été véhiculés par son suivi. On a quand même le père de la victime qui a été conduit à commettre un homicide. Ça, c'était du jamais vu avant cette affaire-là. On a eu aussi tout un tas de scandales. On a eu un juge qui a eu un traitement très particulier de l'affaire. Ça a été un peu l'histoire de tous les excès, quasiment l'histoire du petit Grégory. Et c'est peut-être pas encore fini. Enfin, on connaît pas encore tout. Donc cette histoire, elle était obligée de fasciner tout le monde depuis 30 ans.
Anne-Elisabeth Moutet, vous aussi, en tant que journaliste, peut-être que vous n'avez jamais peut-être dû à traiter, peut-être, je ne sais pas, cette histoire, mais est-ce que vous aussi, c'est une histoire, c'est vrai, qui accompagne quand même la France aujourd'hui, depuis 33 ans ?
Complètement, complètement. Je me souviens très bien, non seulement de l'affaire, de ses rebondissements, de ce qu'on découvrait, de ce que maintenant nous avons appris à appeler la France périphérique, qui est un endroit de l'Est de la France difficile, avec des différences sociales extrêmement marquées, des parties qui sont héritées du passé, et puis le ressentiment à l'égard des gens qui réussissent mieux que les autres, ce qui était aussi un truc de ressortissement de classe à l'ancienne, tout ce qui s'est passé autour, parce que brusquement la presse parisienne et ensuite les intellectuels parisiens, à commencer par Marguerite Duras, sont tombés sur cette affaire, et Marguerite Duras a commis dans Libération un texte qui était littérairement admirable et humainement répugnant, et qui était une chose magnifique, qui s'appelait magnifiquement écrite, on peut écrire toutes sortes de choses, même des horreurs très bien, et qui s'appelait Coupable, forcément coupable.
Non, sublime, forcément sublime.
Et ça supposait que Christine Villemain était...
Marguerite Duras était une très grande connaisseuse en faits divers. Elle en avait suivi énormément dans sa carrière de journaliste, car elle a été aussi journaliste. Elle connaissait cette affaire. Alors évidemment, elle avait un point de vue presque hystérique, mais comme tous les Français pouvaient avoir. C'est notre Twin Peaks à nous, en fait.
On accuse dans un journal la mère d'avoir tué son fils.
Et au même moment que David Lynch sort une nouvelle saison 20 ans après les deux premières, sort une nouvelle saison de Twin Peaks, il y a une nouvelle saison dans l'affaire Grégory. Quoi. Est-ce qu'elle sera vraiment captivante ? Ça, j'en suis pas sûr. Parce que je crois pas justement que ce scientisme, c'est de ça dont il s'agit.
C'est ça.
Ce scientisme sert vraiment à résoudre une affaire pareille.
Alors, on va y revenir justement dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors j'avoue qu'en lançant cette émission, jamais j'aurais pensé un jour faire un débat sur l'affaire du petit Grégory qui depuis hier donc subit aujourd'hui un rebondissement. Ce soir, il y a encore deux membres de la famille Villemain qui sont en garde à vue. Le procureur aujourd'hui de la cour d'appel de Dijon a fait le point en disant qu'il y avait des écritures confondantes concernant la grand-mère et la grande-tante de l'enfant assassiné en 1984, soit peut-être le fameux corbeau Henri Vernet. C'est vrai que en parlant de ça, on se ramène à des années, bien sûr, des années en arrière. C'est une affaire aussi qui a changé la relation avec la presse aussi,
dire que là, elle s'est rendue, là, pour le coup, coupable et pas sublime de tous les excès. Hein. Tout a été vu. Les montages. Moi, j'entendais tout à l'heure une de nos consoeurs, la correspondante à l'époque, sur votre antenne, qui s'exprimait il y a quelques minutes, Catherine Tardreau, qui rappelait un petit peu le côté totalement fou de cette affaire, avec le comportement de certains journalistes qui n'ont pas hésité à faire des montages avec la famille, enfin, avec différents membres de la famille autour de, et puis parfois même à provoquer certains des protagonistes, allant comme vous le rappeliez jusqu'à, alors non pas provoquer, évidemment personne ne peut dire ça, mais l'oncle Laroche qui avait été poussé, qui avait été assassiné. Suite à des confidences faites par des journalistes à certains, encore une fois, aux pères de famille, etc. Bref, il y a vraiment, c'était précurseur de tous les excès, oui, les excès de la presse. D'ailleurs, vous évoquiez, pour moi, c'est Twin Peaks, c'est aussi les granges brûlées pour les cinéphiles. Il y a de tout. Il y a cette espèce de huis clos dans des, comment dire, dans des coins un peu enneigés, etc. Dans la famille, dans cette famille qui se regardait, qui se guettait les uns les autres. La consœur dont je parlais, elle évoquait la jalousie provoquée par un salon en cuir, par un canapé en cuir.
C'est ce là-dedans qu'on était.
Puis vous l'avez repassé tout à l'heure. Bref, on voit dans quelle histoire misérablement humaine on a été, mais en effet, qui a retenti à travers toute la France. C'est vrai que ça a été le point de mire de tous les médias, et puis les excès judiciaires que vous avez rappelés, les erreurs de la police. Alors, bref, on était avant outre, on était avant bien des excès.
Nicolas Delies, je vais juste une dernière question, parce qu'après, je vais vous libérer. L'affaire, vous, aujourd'hui, petit Grégory, quand vous faites du reportage, donc de faits divers, on assiste aujourd'hui à une explosion, à la télévision, d'émissions, justement, sur les faits divers. Est-ce que vous avez compris pourquoi, finalement, on aimait autant ça, ces faits divers? Pourquoi on s'y intéresse autant? Est-ce qu'il y a un côté pervers? Est-ce qu'il y a un côté morbide? Est-ce qu'il y a un côté aussi fictionnel, finalement, à travers ça?
Et je crois que le fait divers en lui-même, il répond à aucune règle. Mais par contre, la seule règle à laquelle il répond, c'est le choc. Il provoque l'émotion par lui-même, par les faits qui sont véhiculés. Et après, chacun y retrouve le côté un peu obscur qu'il peut y retrouver par rapport à ce qu'il est. Et c'est ça qui fascine un peu, parce qu'on essaye d'aller un peu plus loin vers le noir qu'on connaît nous-mêmes au travers de ces histoires qui, bien souvent, eux, sont des exagérations de tout ce qu'on pourrait retrouver dans notre propre vie.
Propre vie, d'accord. On l'a encore vu finalement récemment aussi avec l'affaire de la famille Traudec. Exactement. La ferme de l'or. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Nicolas Delies, d'être passé ce soir aux informés de France Info. On y reviendra bien sûr demain, puisqu'il y aura une nouvelle conférence de presse de ce procureur de Dijon. Il est temps de revenir finalement à des choses beaucoup moins tragiques, on va dire, puisqu'on va parler de la campagne des législatives, puisque dimanche, ça sera la fin du processus électoral qui aura duré près d'un an. Le deuxième tour des législatives va clore ce cycle qui aura chamboulé la vie politique française. Oui, ça se termine, et pour certains médias, tant mieux. Ainsi, suite à l'agression de Nathalie Kosciusko-Morizet sur un marché du 5e arrondissement, nos confrères de BFM n'ont pas hésité à faire un direct depuis le 10 marché, en fait, avec une journaliste montrant où le ténor des Républicains était tombé, à se demander si entre le primeur et le charcutier, ce n'était pas une zone à risque, s'il fallait considérer le 5e arrondissement comme no-go zone, un coin de Paris où l'adversaire en marge de NKM a décidé de suspendre sa campagne juste avant de continuer. Alors, juste une chose, pour vous, Henri Vernet, c'est un incident de campagne, ça vous sait une tension, comme on a pu voir, par exemple, comme contre Manuel Valls, par exemple, quand il s'est pris une claque en Bretagne.
Est-ce non, mais c'est dans cette ligne-là, oui, c'est un incident qui est révélateur d'une campagne qui a été exceptionnellement violente. Alors, la politique est violente. La violence, elle est consubstantielle de la politique, et ça depuis toujours, depuis le Sénat romain, etc. Là, il n'y a rien de neuf. Et souvenons-nous de la violence de la Troisième République, exacerbée, extraordinaire. Bon, mais là, cette campagne a été particulièrement violente. Elle était violente de la part des acteurs politiques. Rappelons-nous le ton qui a été donné d'un bout à l'autre, par un Mélenchon, mais pas que par lui, par d'autres. C'est-à-dire que l'invective est la norme, une espèce de tension qui est provoquée, qui est calculée, qui est mise en scène par donc la violence des politiques eux-mêmes, la violence des électeurs. Vous avez raison, vous avez rappelé Valls enfariné, il y a également Macron qui s'est pris un œuf sur la tête, il s'est pris une gifle aussi,
la gifle de
Valls, il y a eu des entartrages en Syrie, de toute façon la France est un pays en colère, qu'il était déjà urgent d'apaiser il y a 5 ans avec Hollande, ça n'a pas marché, qu'il est urgent d'apaiser là pour Macron, on verra si ça marche, mais c'est un pays en ébullition qui est partagé entre cette ébullition-là, entre cette colère et en même temps une extraordinaire apathie électorale qui fait qu'un Français sur deux n'est pas allé voter.
C'est
donc
ça.
Voilà, moi, c'est pour moi, c'est un petit peu là qu'est le problème.
Mathieu Delahousse.
Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, ce sont des épisodes qui montrent que la campagne et les épisodes politiques sont devenus physiques à cet instant-là. Vous avez écrit, si je ne me trompe pas, un livre sur la violence en politique qui était un excellent ouvrage, mais sur
avec
Renaud Dely, sur les chocs concernant les intimidations, quasiment les extorsions qu'on peut avoir entre des camps politiques. Là, ce que constataient tous les gens qui sont à la fois dans la campagne, mais par exemple ceux qui sont amenés à les protéger, c'est que ces derniers mois, il y avait une véritable focalisation entre les politiques qui voulaient s'approcher de plus en plus proche, de façon plus en plus nette, pardon, des électeurs, et puis eux-mêmes qui étaient dans des réactions très différentes. Et la phrase de Macron quand il est à Amiens, quand il va à Whirlpool et qu'il explique à ses conseillers que quand on écoute les gars de la sécurité, on est en sécurité, mais on est mort. C'est une phrase qui résume beaucoup de choses, parce que les hommes politiques ont le sentiment qu'il faut aller très loin avec le contact. Ceux qui les protègent, pour avoir discuté récemment avec eux, les gens qui sont les anciens du SPHP, par exemple, disent que les hommes politiques les amènent à faire des risques supplémentaires. On n'est pas dans cette configuration-là.
Il faut quand même raison garder, puisque souvenez-vous qu'en Angleterre, une députée a été
assassinée.
Non, mais c'est pour ça que je disais que ce n'est pas
donc, il faut raison garder, car cette violence, effectivement. Alors,
et on vient tirer sur des sénateurs.
Il y a quelque chose aussi qui se passe avec les élections législatives, c'est que c'est une élection qui ne devrait pas être locale, mais enfin qui est quand même locale. Donc il faut aller au contact des gens. Et donc c'est compliqué. Et là, il y a effectivement des problèmes de sécurité qui se posent, mais on est bien obligé d'aller au contact des gens.
Vous-même, alors vous êtes présentée, je précise juste pour les auditeurs, vous êtes présentée en tant que candidat indépendant dans le 18e arrondissement. Oui. On en parle beaucoup de ce 18e, puisque c'est l'affrontement entre. C'est un des seuls endroits en France où il n'y a pas de candidats macronistes, sont tous pour Emmanuel Macron, Myriam El Khomri, Pierre-Yves Bournazel. Est-ce que vous-même, en allant distribuer des tracts, des choses comme ça, est-ce que vous avez senti peut-être une tension ou alors finalement.
Mais écoutez, moi j'ai fait cette campagne pour voir physiquement ce que ça faisait justement de faire campagne, de faire un discours, distribuer des tracts, etc. Et ce que j'ai découvert effectivement, c'est que c'est la violence est inhérente à la politique, on la sent très fort. Et l'amour aussi. Mmh. Vous sentez les deux choses très fort. L'amour et la haine. Ouais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que vous êtes accroché. Vous êtes en pleine adrénaline parce que c'est énormément de sensations, alors, de sentiments.
Anne-Elisabeth Moutet, pour vous, cette violence, est-ce qu'elle est palpable? Est-ce que c'est un incident extérieur
Ça fait évidemment partie de l'atmosphère, mais ce qui m'a intéressé, c'est la violence dans l'autre sens, c'est-à-dire d'un homme politique qui a raté son coup et qui s'est défoulé ensuite, c'est Henri Guénaud. Oui. Henri Guénaud qui dit « je vomis sur mes électeurs, ils sont épouvantables, etc. C'est les cathos qui vont à la messe. » Et ont, quelque part, ce mépris des gens qui pensent que leur boulot de dans 5 ans leur est dû tout de suite. Quand ils ont perdu, Guénaud, qui était tout de même la grande plume de Chirac et ensuite de Sarkozy, et qui se lâche comme ça, ça trahit quelque... Il a tout de même écrit le discours de la Porte de Versailles, qui était un très beau discours en janvier 2007. C'est un discours admirable, vraiment. Que cet homme-là finisse sa carrière politique en vomissant littéralement, pratiquement sur ses électeurs, je pense que ça montre aussi pourquoi les gens se sentent méprisés. Ils en ont assez.
Oui. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, également Anne-Elisabeth Moutet du quotidien britannique The Telegraph, le journaliste et écrivain Arnaud Vivian et Mathieu Delahousse de l'Obs. Alors des élections législatives, le deuxième tour c'est dimanche, n'oubliez pas. Des élections donc qui électrisent plus qu'elles ne passionnent et perturbent tout le monde. Ainsi, selon un sondage Elab, 61% des Français souhaitent que le résultat du premier tour soit rectifié au second. Bon, alors déjà, c'est vrai qu'il faudrait aller voter, déjà, ça serait, En attendant dimanche, les partis politiques règlent déjà leur compte. Et ce matin, pour la droite, c'était carrément l'offensive anti-Fillon. En premier, chez François Baroin, il était au micro de Jean-Jacques Bourdin.
Est-il vrai que vous avez accompagné François Fillon au Trocadéro parce que vous pensiez qu'il allait abandonner?
C'est beaucoup de malin.
Non, je vous pose franchement la question.
Ce que je vous dis, c'est franc et vous le savez.
Oui, je le sais. C'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai. Bien sûr. On pensait que les conditions et les circonstances politiques étaient telles, mais il a été courageux, il a fait preuve d'abnégation. Oui, mais d'accord, mais s'il y avait
pour eu... Vous, dans votre esprit, il allait abandonner.
Il y a eu une mobilisation très forte du Trocadéro. En tout cas, il y a puisé une force et une ressource qui fait que, de toute façon, c'est lui qui avait les clés politiques.
Alors, François Baroin, ce matin, sur RMC. Et puis aussi, il y a eu, au même moment, Jean-François Copé.
Il n'y a pas eu une erreur de stratégie, il y a eu un naufrage dont François Fillon est le premier responsable. Enfin, il ne peut pas y avoir de doute là-dessus, quel que soit qui on a pu soutenir. Moi, vous savez, j'ai été irréprochable. Dieu sait si j'avais quelques raisons quand même de dire aux Français à ce moment-là combien je n'étais pas complètement surpris de certains comportements qu'ils pouvaient avoir au regard de la manière dont ils s'est comporté avec moi après avoir perdu en 2012.
Jean-François Copé, donc 2012, seulement 2017. Et puis Thierry Mariani, donc député d'étranger en ballotage défavorable, qui aurait déclaré sur le Canard enchaîné « Je voulais faire un tweet Pénélope m'a tué, mais je me suis retenu et je ne l'ai pas posté. » Arnaud, Vivian, pourquoi finalement cette offensive anti-Fillon maintenant? Parce que faut donner des gages juste avant le second tour quand même. On se dit, voilà, comme ça on raye sur Fillon.
Oui, et puis il y a la question du parti, là, vraiment. C'est-à-dire que ce
on est déjà dans l'étape d'après, en fait.
Oui, on est déjà dans l'étape d'après. Les couteaux sont sortis. On parlait de violence en politique, là. Clairement, les couteaux sont sortis. S'il restait des fillonistes, un dernier carré de fillonistes. Et n'oubliez pas que derrière, il y a l'idéologie. stratégie, c'est-à-dire que c'est pas simplement Fillon qui est visé, c'est aussi Sens Commun, qui était un peu son bras armé, qui a monté le Trocadéro, justement. Et là, Sens Commun, c'est un problème idéologique à l'intérieur de la droite. Et on voit bien qu'il y a deux mouvements. Hein. Il y a ce qu'on appelle maintenant la droite hors les murs, qui s'appelle elle-même la droite hors les murs, qui ne veut plus être rattachée aux Républicains. D'ailleurs, ce nom, à mon avis, ne va pas résister très longtemps. Hein. Et on n'arrive pas à s'y faire, on a tout le temps envie de dire l'UMP, on n'y arrive pas. Je crois qu'il va y avoir déjà un problème, là, ne serait-ce que sur le nom. Donc, vous voyez, il y a de véritables enjeux. Je crois qu'ils sont bien après le second tour des législatives. Là, ils sont déjà dans une projection de la rentrée.
Anne-Elisabeth Moudet, est-ce que vous avez l'impression qu'on a vu, ils ont jeté le programme présidentiel, les Républicains, ils en ont refait un autre qui n'est pas très compréhensible. Finalement, aujourd'hui, le front anti-Fillon, c'est ce qui reste pour unir, finalement.
En réalité, il y a deux traditions qui se battent dans la droite française, et il va falloir que les choses se remettent en place. Il y a une tradition laïque, un petit peu héritière des radicaux-socialistes, assez franc-maçonne, soyons honnêtes. Et puis de l'autre côté, vous avez la France catholique qui n'est pas représentée depuis pratiquement la fin du MRP. Mmh. Alors, il y a un palimpseste des démocrates chrétiens de Alain Poher qui existe encore quand on va en province, mais il n'existe pas.
Alain Poher, je rappelle juste, c'était président du Sénat, il s'est présenté en 1969.
Contre le général de Gaulle. Tout ceci, ça veut dire que c'est très vieux, mais il y a un souvenir. Et à un moment, ils se sont dit, ah, on a enfin un candidat qui nous ressemble, et nous, on est représenté par personne depuis des années.
C'était François Fillon.
Et c'était François Fillon. Le problème, c'est que François Fillon lui-même n'était pas sans peur et sans reproche, et donc ça s'est mal passé. Mais il faut qu'ils construisent un parti moderne, il faut construire quelque chose qui s'identifie autrement qu'en étant exclusivement les gens dont Macron n'a pas voulu pour les intégrer dans son truc, je ramasse à gauche, je ramasse à droite. Ils ont un vrai problème sous les yeux. Quand j'entends Jean-François Copé, j'ai pas l'impression qu'il ait tiré les leçons de la dernière fois où il s'est battu pour la direction du parti.
Vous pensez ça? Henri Vernet, justement, ce qui paraît assez étonnant, c'est que là, on a bien compris, il y a une offensive anti-Fillon. Le problème, c'est quelle sera cette ligne, justement, des Républicains après le second tour?
Non, mais c'est pas une offensive anti-Fillon. Fillon, il n'est plus là. C'est fini, c'est terminé, c'est mort.
Donc pourquoi ils le font alors, ça, comme
ça? Mais parce que c'est une manière de solder le passé. Ça coûte pas cher, puisque de toute façon, il n'est plus là, il n'est plus dans le jeu. Donc ça coûte pas cher de mettre Fillon en bouc émissaire, d'expliquer que si on a une déroute dimanche soir de LR, parce que là, les projections leur donnent au maximum 120 sièges, mais eux-mêmes, leur propre calcul, à leurs propres analystes, disent que ça risque d'être plutôt 70. Donc, ils vont avoir une déroute, moindre que celle du PS, mais certes, une déroute quand même. Et donc, charger la mule sur Fillon, ça coûte pas cher. Il n'est plus là. En revanche, ils se positionnent les uns les autres. Au passage, je voudrais quand même dire que moi, ça me fait un petit peu sourire, les déclarations de Baroin. S'il était là, je crois qu'on savait déjà que Fillon allait rester. On l'avait compris après sa conférence de presse du mercredi précédent.
Au moment du
s'il était là, voilà, s'il était là au Trocadéro Baroin, c'était surtout pour s'affirmer comme le premier ministre possible, pour bien montrer qu'il ne renoncerait à rien et que si sur un malentendu, Fillon avait été élu, il aurait été élu le Premier ministre. Donc, il ne faut pas se tromper non plus, pas trop refaire l'histoire. Copé, c'est intéressant, parce que Copé, voilà quelqu'un qui avait été débarrassé, jeté aux oubliettes, qui avait tout subi de la part de sa famille politique et qui est en train de revenir. Moi, je vais vous dire, je me demande s'il ne regrette pas de ne pas se présenter là, aux élections, parce qu'en plus, à l'Assemblée, il n'y aura quasiment personne, il n'y aura pas de ténor républicain.
Il a choisi d'être maire et en même temps, c'est compréhensible. Tous avaient fait la même démarche.
Je sais bien qu'il a choisi d'être resté maire. Sauf que là, à l'Assemblée, ou quand même en France, les choses se passe, eh ben, il n'y aura quasiment aucun ténor républicain. Bref, le parti est à prendre, il faut imposer une ligne, et c'est ça qui se construit. Voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi ? Continuons à en parler. Dans un instant, on parlera également d'Emmanuel Macron, qui fête son premier mois, et du salaire de Carlos Ghosn. Le programme est chargé, monsieur Leur Majesté, jeudi soir, qui est toujours mieux que le mercredi, encore mieux que le vendredi. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux, ils sont en bonne position sur le circuit de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, également Anne-Elisabeth Moutet du quotidien britannique The Telegraph, le journaliste et écrivain Arnaud Vivian et Mathieu Delahousse de l'Obs. Encore une question qui turlupine, on peut dire ça, beaucoup de gens à propos des élections législatives, c'est mais pourquoi les candidats de La République En Marche bien certains refusent de débattre. Et oui, il y a beaucoup de candidats. Alors, on en voit certains. Par exemple, ce soir, Najat Vallaud-Belkacem a débattu avec le candidat de La République En Marche. Mais il y a, comme ça, certains qui refusent de débattre, et notamment un à Paris. Il s'appelle Pierre Person. S'il est élu, ce serait le plus jeune député élu à Paris depuis très très longtemps. Et il doit affronter, c'était la circonscription où il y avait Cécile Duflot, il doit affronter une proche de Jean-Luc Mélenchon, c'est Daniel Simonet. Et il explique pourquoi il ne veut pas débattre. On l'écoute, Pierre Person.
Je souhaite pas qu'il y ait de débat avec, un, mon offre politique, deux, la caricature. Quand je suis sur le terrain et que je débat avec Madame Simonnet, et puis que je débat aussi avec les autres Français, les seuls mots de Madame Simonnet dans sa bouche, c'est aujourd'hui, Macron, c'est tous précaires, Macron, c'est la caisse du travail. Alors qu'elle n'écoute même pas la personne qui vient lui parler juste à côté d'elle et qui lui dit, moi, je suis immigré de deuxième génération et mes enfants, ils trouvent pas de travail, ils sont au chômage depuis plus d'un an, alors qu'ils ont bac plus 5. Moi, je suis pas dans une politique spectacle. J'ai quelque chose à prouver, j'ai quelque chose à faire.
Voilà, donc Pierre Person, donc candidat à Paris pour La République En Marche. Mathieu Dehaus, c'est pas l'idée de focaliser sur cette personne ou cette circonscription, mais c'est quelque chose qu'on voit finalement en France, ces candidats qui refusent de débattre.
Oui, mais c'est un pari curieux, mais compréhensible de leur côté. Ils savent qu'ils seront ils seront la cible. Mmh. Tout le monde sera face à cette majorité présidentielle. Ils sont plus fragiles politiquement que les autres, donc effectivement, ils prennent le pari du retrait. Médiatiquement, c'est assez injustifiable. Démocratiquement, faut espérer que ça soit pas les futures règles, parce que si effectivement le fait de se dérober puisse être la meilleure solution pour un candidat en disant les questions ne vont pas être plaisantes et on va me caricaturer, c'est hélas le jeu politique qui... Ça n'empêche pas une question sur un certain apaisement des échanges politiques et des débats, où effectivement, quand il y a une heure de débat sur des législatives locales et que ça tourne uniquement au pugilat, on apprend peu de choses. Mais le fait de se dérober, en tout cas, je pense qu'en tant que journaliste, on ne peut que s'en émouvoir et c'est opposé.
Arnaud Vivian, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on a vu pendant toute cette campagne un nombre de débats incroyables, plébiscités même par les Français, au niveau des audiences. Là, c'est pas la même chose, bien sûr. Ce sont des circonscriptions, c'est des programmes locaux, mais tout de même, ça paraît étonnant.
Je trouve ça même, on peut dire, un peu inquiétant. Un peu inquiétant. C'est marrant que ça tombe exactement au moment où le président Macron annonce qu'il ne fera pas la sempiternelle interview du 14 juillet. Sempiternelle, mais je dirais, qui était inscrite dans l'idée même d'une démocratie. C'est pas n'importe quel jour, c'est le 14 juillet. On est à l'Élysée. Donc ça avait un sens, ça a toujours eu un sens. Mais on a l'impression que d'ailleurs, il communique très peu, Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, qu'il y a comme ça l'idée de « on va pas trop en dire ». Alors évidemment, les démocrates que nous sommes, les journalistes que nous sommes, ne pouvons que nous en plaindre. En même temps, si on revient au député de base qui va être élu En Marche, quel est son problème? Pourquoi il n'a pas très envie de communiquer? Parce que le premier geste qu'il va faire une fois à l'Assemblée nationale sera de voter les pleins pouvoirs au gouvernement pour qu'il puisse légiférer par ordonnance. Comment voulez-vous justifier être élu député, en tout cas faire candidature, acte de candidature pour être élu député et dire mon premier geste, ça sera de me faire harakiri en votant les pleins pouvoirs au gouvernement Édouard Philippe.
Alors, en même temps, Anne-Elisabeth Moutet, c'est vrai que c'est un axe de campagne chez beaucoup d'adversaires d'Emmanuel Macron de dire oh là là, il va avoir tous les pleins pouvoirs. Bon, eux, quand ils les avaient, c'est vrai qu'on entendait peu de critiques quand même. Hein.
Alors, d'une part, oui. Et puis, moi, je suis très contente qu'il ne la fasse pas, la fameuse interview du 14 juillet.
Mais pourquoi?
Parce que c'était obscène à tel point, c'était un kabuki et un théâtre qui n'avait strictement rien à voir.
La démocratie ne peut pas être obscène.
On avait deux ou trois confrères qui essentiellement servaient la soupe. On avait prévu les trucs avant, on avait choisi les confrères, on avait tout mis en scène. Et même les choses qui n'étaient pas...
Il y a longtemps, oui, mais pas ces dernières années.
Même les trucs qui n'étaient pas tout à fait servir la soupe, ça avait été absolument scénarisé dès le départ. Donc, on n'est pas cette espèce de théâtre qui est une vaste blague. Je suis très contente.
C'est forcément scénarisé.
Que ça veuille pas dire que les gens doivent pas débattre. Non, je pense qu'effectivement, c'est un métier, il est tout à fait jeune ce monsieur, il n'a pas l'habitude, et on apprend à se défendre contre les gens qui vous disent des bêtises.
Je pense que chez lui, c'est tout simplement un réflexe de survie, soyons clairs.
Chez lui, mais c'est pas important.
Non, attendez, si c'est important, et moi ça me choque. Si c'est important, parce que ce jeune homme, il ne le fait pas, parce qu'il sait très bien qu'il se ferait, mais littéralement, exploser par Daniel Simonnet. Et pas que sur des questions de forme, pas uniquement comme il le dit, parce qu'elle le prendrait pour si, parce qu'elle le caricaturerait, etc. Non, c'est quelqu'un aussi qui a du fond, comme beaucoup de candidats. Je veux dire que c'est une mélenchoniste, en l'occurrence, à Paris. Il y a bien sûr beaucoup de théâtre, beaucoup d'invectives chez les mélenchonistes, mais il y a aussi du fond. Ce sont des gens qui connaissent leur dossier. J'imagine que ce jeune garçon les connaît également, mais c'est pas que lui. Je trouve qu'à travers lui...
Il est venu ici, on l'a vu vraiment.
Mais
c'est quelqu'un
qui est capable du débat. Comme Daniel Simonnet d'ailleurs.
Il est capable du débat,
je trouve. Exactement, il est capable du débat. L'argument d'eux, on va faire flèche de tout bois contre eux. Mais attendez, mais il était exactement valable contre Macron également. Et Macron, il a remporté haut la main son débat contre Marine Le Pen et il a été élu avec le nombre de voix bien suffisant pour le légitimer.
Non, je trouve ça choquant.
Je trouve ça choquant. Écoutez, le débat, c'est la politique, et la politique, c'est le débat. Donc là, oui, il y a un problème. On voit qu'il y a quand même une tendance à la verticalité, à la centralisation, à la jupitérisation, puisque c'est le terme maintenant qu'on lui accole, chez Emmanuel Macron. Il ne faudra pas en abuser. Là, il y a une espèce d'état de grâce, encore que, qui s'effrite un petit peu. Mais l'état de grâce, c'est 6 mois. Sarkozy, ça avait duré jusqu'en 2008. Bon, et Hollande n'en a pas eu. Mais bref, attention. Là, les Français ont aussi voté pour qu'on ouvre les portes, pour qu'on qu'on ouvre les fenêtres pour qu'il y ait un petit peu d'air dans cette 5e République qui en a besoin.
Mathieu Dehaus.
Et la grande différence, malgré tout, avec Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron a joué le jeu pendant la campagne d'être dans l'affrontement, d'être dans le débat. Il ne s'est pas dérobé.
D'aller voir les ouvriers.
La seule différence.
On en parlait tout à l'heure.
C'est qu'effectivement.
Qu'il est élu, c'est exactement
le. Il avait annoncé avant même son élection que l'Élysée ne serait plus une maison de verre et plus une maison fermée. Je crois que les journalistes politiques sont assez servis là-dessus. Il le fait, mais entre temps, il a été élu. La particularité de ces candidats, effectivement, assez jeunes, au-delà de se dérober du débat, c'est d'imiter finalement Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron n'a fait ça qu'après son élection. Ouais, il a débattu avant.
Alors, on va continuer à parler justement d'Emmanuel Macron, son premier mois. On va en parler quelques minutes encore. C'est normal, ça se fête toujours un premier mois. Ça en parle surtout. Pour l'instant, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Mais de quoi parlions-nous juste avant? Ah, Emmanuel Macron, tiens, ça change un petit peu, au fait, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que ça fait un mois qu'il est rentré à l'Élysée, Emmanuel Macron. Alors, on devine déjà quelques pas, quelques pistes, une gouvernance assez forte, centralisée, hyper personnalisée, avec les angles, par exemple, de la task force, centralisation de l'antiterrorisme à l'Élysée. On verra véritablement ce qui se passe à partir de lundi, après le second tour des législatives. Bon, déjà, il y a un changement, c'est au niveau canin, puisqu'on ne parle plus de Fila et maintenant, mais le chien s'appelle Figaro. Voilà, c'est le couple Macron qui a ce chien, s'appelle Figaro. Mais ses premiers pas, est-ce que ça dit quelque chose? Et Anne-Elisabeth Moutet, centralisée, hyper personnalisée, est-ce que ça vous semble juste concernant Emmanuel Macron?
Oui, alors bon, il y a une tradition de la 5e République qui remonte à De Gaulle tout de même et qui était tout à fait dans cette personnalisation et cette espèce de sacralisation. Et puis Macron est jeune lui-même et dès son discours d'inauguration au Louvre, on s'est bien rendu compte que le but c'était sauf son discours de victoire, le but consistait à lui donner une stature qui soit pas celle d'un jeune type qu'on avait rencontré essentiellement 2 ans auparavant. Donc ça, c'est parfaitement compréhensible. Alors sur le
et pourtant Elisabeth Moutet, c'est vrai que par rapport à son âge, par rapport aussi à sa passion des start-up, on avait dit Macron, ça sera un président qui va moderne, et pourtant il adore tout ce qui est tradition républicaine, les heures de la République, il adore ça.
C'est un garçon cultivé, il a appris la leçon de Giscard aussi, et il s'est rendu compte que spécialement si on veut faire des choses qui vont changer la France, la loi du travail, etc., c'est pas rien, on ne peut pas faire ça en étant copain-copain, et donc il a intérêt à considérablement présidentialiser ce genre de discours. Plus la potion est amère, et plus il faut faire ça avec une certaine hauteur, c'est une bonne tactique.
Mathieu Dehaus, est-ce que dans ce premier mois, finalement, pour vous, est-ce qu'il y a eu déjà une volonté de rompre avec le quinquennat précédent, ou finalement on l'assume un peu, ce quinquennat avant de François Hollande? À votre avis, il y a eu une volonté de rompre?
Alors, je pense qu'il y a une volonté, clairement, c'est sur la proximité. Il y avait un président Hollande très proche des journalistes qui pouvaient être amenés à discuter avec lui. Emmanuel Macron a coupé ça. En revanche, sur l'aspect des traditions, je pense que Emmanuel Macron a pu se montrer effectivement dans ses images très fortes, notamment celle de Versailles avec Vladimir Poutine en homme présidentiel. Mais ce soir, il est au salon Vivatech avec une volonté davantage d'être le VRP d'une France qui serait la France des start-upers. On sait qu'il a plusieurs personnes autour de lui, notamment des jeunes entrepreneuses qui sont revenues de Los Angeles avec des carrières glorieuses et qui ont pu montrer quelle était la fortune. Donc, il joue sur plusieurs registres et le registre de la tradition n'est pas le seul. En revanche, à chaque fois, c'est vrai que l'organisme est choisi, celui avec lequel il discute, c'est son interlocuteur et c'est pas le bavardage tout autour. Donc ça, c'est une vraie rupture de style.
En revanche,
elle s'est faite extrêmement
maîtrisée,
rapidement, et elle se fait sur l'image avec soit Versailles, soit la porte de Versailles pour le salon technologique dont on parlait à l'instant.
Pas trop Versailles. En tout cas, une communication très très maîtrisée depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Arnaud Vivian, c'est vrai qu'il y a un mois de présidence et c'est vrai qu'on a parlé déjà deux affaires, celle de Richard Ferrand et l'affaire du MoDem avec François Bayrou qui porte lui-même une loi quand même sur la moralisation de la vie politique. Est-ce que ces affaires risquent pas finalement de polluer ce quinquennat si elles ne sont pas réglées rapidement?
Là, pour le coup, ça n'a pas changé par rapport à la présidence Hollande. Ouais. On met du temps à régler des affaires qui semblent quand même relativement limpides, ne serait-ce qu'au niveau de l'éthique. c'est bien une question d'éthique. On en parlera tout à l'heure avec Carlos Ghosn, mais ça aussi, c'est une question d'éthique.
Ouais.
On peut faire des choses légales, mais qui ne sont pas éthiques. À mon avis, l'affaire Ferrand, c'est exactement ça. C'est peut-être légal, mais ce n'est pas éthique.
Ouais, c'est un sujet de philo aujourd'hui, d'ailleurs.
Voilà. Évidemment que la question de l'éthique, elle est là. Et ce gouvernement, cette présidence promettait, a toujours promis l'inverse. La loi de moralisation est vendue maintenant au rabais. Hein, on le sait, par rapport à ce qu'elle devait être. Donc on a rabaissé les objectifs. Donc là, il y a vraiment, si vous voulez, pour moi, ce qui est très étonnant avec ce mois de présidence, c'est que Macron a été élu, il a 39 ans, et on a tous été évidemment éberlués. Et le monde entier a été éberlué qu'un homme que personne ne connaissait 2 ans auparavant puisse devenir président de la République. C'est une évidence, tout le monde. Et que fait-il, ce jeune garçon de 39 ans, de la très vieille politique? Si vous pensez que casser le code du travail, c'est le 21e siècle, non, c'est à peine le 19e. En réalité, d'un point de vue politique. Vous voyez, quand il y a eu effectivement gouverner par ordonnance, ça a été fait en 1981, mais c'était pour abolir la peine de mort et donner une semaine de congé supplémentaire. C'était autre chose que vouloir simplifier le code du travail.
Alors, Henri Vernet, pour vous, finalement, ce premier mois, quand je parlais des affaires, est-ce que finalement, là, aujourd'hui, on risque pas de retenir ça, finalement, aujourd'hui, de ce premier mois, finalement?
Alors, c'est un risque, d'autant plus que maintenant, on le sait, hein, notamment depuis les premières semaines, les premiers mois de Hollande, que les premiers pas d'un quinquennat, d'un président, sont scrutés parce qu'ils donnent cette tonalité à l'ensemble. Sarkozy ne s'est jamais débarrassé de sa New Fouquet's. Et quant à Hollande, voilà, le yacht. Et quant à Hollande, il s'est jamais, voilà, les vacances de Monsieur Bidochon, alors que la France prenait feu, Brégançon, ça lui est resté une espèce d'incapacité à agir. En revanche, alors d'abord, moi, je suis pas d'accord, il faut pas de la vieille politique, il faut un mélange de tout. Le trait commun, tout ce qui unit tout cela, c'est l'autorité. Voilà, c'est que Emmanuel Macron, il revient à l'autorité de l'exécutif, c'est-à-dire à l'essence de la 5e, mais je redis de la même manière qu'il faut, encore une fois, y insuffler de la démocratie, du contrôle des citoyens, du Parlement, etc. Alors, les affaires, moi, je pense que ça va pas durer, parce que entièrement d'accord avec ce qu'a dit Arnaud Vivian sur Richard Ferrand, c'est vraiment pas glorieux, c'est même assez méprisable pour tout dire. Alors, il faudra voir après les législatives ce qui pourra se passer. Bon, quant à Bayrou, pareil, si ça prospère sur le plan judiciaire, ça va pas durer longtemps, je le dis tout de suite. Attendez, comment est-ce qu'on peut imaginer le garde des Sceaux, non seulement promoteur de sa loi, mais en plus, président d'un parti qui est mis sous enquête, il est garde des Sceaux. Donc voilà, la seule chose que je veux ajouter, c'est que Macron veut s'imposer comme le maître du temps, le maître des horloges. Et donc, c'est lui qui décidera, en fonction du calendrier judiciaire et non pas médiatique, quand il faudra dire stop. Et c'est lui seul qui le décidera. Mais je crois qu'en effet, ça durera pas éternellement.
Anne-Elisabeth Moutet.
Alors, moi, je pense qu'il y a plus que simplement un problème de moralité dans l'affaire Ferrand. Je pense que c'est de la concussion. Il se fait payer, ou plus exactement, il fait payer à un prête-nom, c'est-à-dire sa copine, un appartement par l'entreprise qu'il emploie en ayant la garantie et sans débourser un centime. Et il sait suffisamment que c'est pas bien. Et donc, il apparaît masqué. Il a une seule part dans une SCI et ensuite, il en disparaît directement. Il se rend bien compte que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire. Toutes les mesures qu'il prend montrent bien que ça se fait pas. Donc, ça, vraiment, je trouve ça dérangeant. Mais bon, pour le reste, on va voir effectivement comment fait Emmanuel Macron. Et je crois qu'effectivement, il peut rien faire jusqu'au résultat des législatives. Et une fois qu'il sait comment il est installé, à ce moment-là, il y a des décisions qu'il va devoir prendre. Je pense qu'il est capable de les prendre assez vite.
Mathieu Delahousse, c'est vrai que cette affaire, on en parle beaucoup, notamment ici, l'affaire Bayrou, enfin l'affaire Modem, hein, puisqu'il n'y a pas que François Bayrou, hein, de toute façon, qui pourrait être impliqué dans cette histoire. Il y a 3 ministres tout de même, et notamment une ministre aussi très importante qui a mise quand même de la défense, aussi Sylvie Goulard. Là aujourd'hui, il y a un moment où ça va être tranché quand même, cette affaire.
Ah, il y a un moment où ça va être tranché, mais en l'occurrence, ce qu'il faut trancher très vite, c'est davantage la place de François Bayrou, devenu garde des Sceaux. Il faut répéter, François Bayrou est devenu garde des Sceaux. Quand il a présenté, avant le premier tour, Galerie Perronnet, Place Vendôme, la loi de moralisation, il y avait l'affaire Ferrand. À l'époque, c'était pas l'affaire Modem. Il a ouvert le code de procédure pénale pour l'ère de l'article 30, qui est le garde des Sceaux conduit la politique pénale de la nation. Et puis, il n'intervient pas dans les affaires et il ne les commente pas. Le seul souci, c'est que fait François Bayrou depuis sur l'affaire Modem. Par rapport à cet article 30, il était sur RTL il y a 2 jours où il a revendiqué sa liberté de parole. Dans la magistrature, ça commence à grincer un petit peu parce qu'il y a un vrai souci d'impartialité objective, mais par rapport à l'affaire, ça va créer une véritable problématique sur la façon dont on peut être garde des Sceaux, y compris avec une barrière étanche avec les procureurs, et cette affaire qui va continuer. En 94, Méhignerie avait dû ouvrir une enquête sur le CDS. C'était un cauchemar pour lui.
Qui était à l'époque donc mise à justice. Ouais.
Aujourd'hui, on n'est plus dans cette même logique politique. On n'est plus dans cette même logique judiciaire, mais François Bayrou, cette scène très forte de lire le code de procédure pénale Place Vendôme à son arrivée, il faut qu'il soit
et d'appeler digne en tant que citoyen de celle-là France
et qu'il
Inter
n'oublie
aussi.
Pas qu'il alors, soit oui, resté exactement. Garde des Sceaux. Et effectivement, quand on est garde des Sceaux, on n'appelle pas France Inter. Et le téléphone alors, sonne sur France Inter, mais pas avec Bayrou.
Non, c'est, voilà, et puis c'est le mauvais horaire. En plus, c'était trompé d'horaire, donc voilà, il faudra lui préciser l'horaire. En tout cas, on n'a plus de ses nouvelles depuis une semaine à Radio France. C'est très bizarre. Allez, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info, on va terminer cette émission en évoquant un sujet dont on parle régulièrement dans cette émission, c'est le coût de la vie, parce qu'on peut comprendre que 7 millions d'euros par mois, ce soit un peu juste. Il faut bien le dire, pour vivre décemment. Par contre, avec 15,4 millions d'euros par an, alors là, on peut peut-être avoir un kir, mais alors juste, hein, quand même, avec ses copains. Le salaire du patron de Renault, Carlos Ghosn, fait encore parler cet après-midi. Ce sujet était au cœur de l'assemblée des actionnaires de la marque aux losanges, car beaucoup s'inquiètent de la dérive salariale de Ghosn. Certes, le groupe se porte bien et engrange de graves bénéfices, mais Carlos Ghosn, en mêlant son salaire chez Renault, s'ajoute à celui perçu chez Mitsubishi et Nissan, en fait, du même groupe. De plus, on pourrait ajouter des soupçons que de super bonus dévoilé par Reuters grâce à un montage fabriqué par une société de holding aux Pays-Bas. Carlos Ghosn dit que ce soir c'est faux. Alors il faut savoir que les actionnaires ont voté majoritairement pour la rémunération quand même de Carlos Ghosn. Mais Arnaud Vivian, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi finalement on évoque toujours ces salaires des grands patrons? Pourquoi à chaque fois? Est-ce que c'est des chiffres tout simplement qui peuvent choquer?
Ce qui est intéressant dans l'affaire Carlos Ghosn là, c'est que le MEDEF lui-même a envoyé une lettre comminatoire à Carlos Ghosn, parce que il y a un problème, si vous voulez, c'est là encore, c'est l'éthique du capitalisme. Ce que fait Carlos Ghosn, c'est de toute évidence du capitalisme sauvage qui ne tient pas compte de l'avis des actionnaires, qui peut-être a monté des structures avec d'autres dirigeants de son groupe pour toucher des primes. Et là, soudainement, c'est pas, encore une fois, c'est sans doute pas illégal. Vous pensez bien que Carlos Ghosn ne fait pas des choses illégales. C'est impossible. Il a des conseillers juridiques qui lui interdisent de faire des choses illégales. Mais des choses qui ne sont pas éthiques, ça, oui, il peut en faire. Et là, en l'occurrence, la crainte exprimée par le MEDEF lui-même, c'est que il est en train de verser dans un côté sauvage du capitalisme qui n'est pas supportable. Vous voyez ?
Alors, ouais.
Pas simplement par l'opinion publique, mais par l'idée même de ceux qui font le capital. On écoute ces actionnaires. Il y a une assemblée d'actionnaires qui votent.
Oui. Alors justement, Anne-Elisabeth Moutet, on se souvient de l'année dernière, ces actionnaires qui avaient voté contre ces rémunérations. Et puis, depuis, la législation a changé parce que c'était pas contraignant. Depuis, elle est contraignante. Hein. C'est notamment la loi Macron. Emmanuel Macron, à l'époque, qui était ministre de l'économie. On s'en souvient peut-être pas, mais il l'était à un moment ministre de l'économie. Finalement, l'idée, en fait, c'est que c'est un salaire indexé sur le Renault, sur les résultats du groupe Renault. Alors Ghosn, il se justifie en disant, bah, il y a plus de profit, donc c'est normal que je sois plus payé.
Écoutez, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est un système extrêmement compliqué, extrêmement sophistiqué, certainement légal, mais caché, de faire une rémunération supplémentaire, je vais citer Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Si on essaye de le cacher, c'est qu'il sait bien que c'est tout de même un problème. Et donc ça, c'est absolument ridicule de sa part, compte tenu et de sa réputation. Alors, son argument, c'est que les patrons des grandes entreprises qui marchent dans l'automobile gagnent plus que lui, c'est vrai. Mais bon, il est patron de Renault, Nissan. Et
c'est l'un des plus gros du CAC 40.
Qu'il soit payé par bien et qu'on l'augmente en conseil d'administration, j'ai aucun problème. En assemblée générale, j'ai aucun problème avec ça. S'il fait un truc par derrière, bah visiblement, c'est qu'il se rend bien compte que le marché va pas supporter ça, comme on dit.
Henri Vernet, c'est vrai que ça, c'est toujours, voilà, on en parle tout le temps. C'est vrai, ces rémunérations de patrons, juste l'État est actionnaire à plus de 19% de Renault, il peut agir dessus.
Finalement. Non, bah on voit bien que non, parce que très sincèrement, ça fait un bout de temps, vous le dites vous-même, on en parle régulièrement. Ouais. Avant, c'était Peugeot, etc. Faire régulièrement ce type de comportement, d'augmentation totalement comme ça, spectaculaire et totalement hors norme, défrait la chronique. Et on voit bien qu'il y a eu du tour de Parisot déjà, quand elle était à la tête du MEDEF, il y avait ces tentatives de d'éthique ou de moralisation.
De moralisation, des choses.
Oui. Et on voit bien que ça marche pas toujours. Alors, en même temps, je pense que pour qu'un système perdure, pour qu'il marche, en l'occurrence le capitalisme, il faut quand même qu'il se moralise ou ou en tout cas qui se normalise. Donc à un moment, il faudra quand même qu'il revienne un petit peu là-dessus. Et j'entendais tout à l'heure un actionnaire qui n'était pas content et qui disait, il trouvait que ce qui était anormal là-dedans, c'était qu'au même moment, les ouvriers, les salariés, tout simplement, il s'agit salariés de manière générale, quoi, devraient eux aussi profiter, alors évidemment pas des mêmes sommes, mais en tout cas d'augmentation proportionnellement comparable. Il n'y a aucune raison, si le groupe marche bien, et eh bien qu'on l'augmente. Alors après, là où je suis plus nuancé, exactement, mais voilà, ouais. et ça c'est un moteur très important, c'était d'ailleurs dans le programme. Bon, maintenant, juste une toute petite remarque, c'est vrai que quand il dit, il est chez Nissan, il a plusieurs, c'est l'un des très rares patrons français qui puisse user de cet argument du marché international, pourquoi pas. Moi, je me demande simplement qu'est-ce qu'il fait de cet argent.
Une seconde,
parce que d'une vingtaine de millions par an.
Chez Nissan, il n'a pas été aussi extraordinaire qu'on le sait, appliquant des solutions capitalistiques normales dans
les voitures. Et puis, ça marche grâce à la voiture low cost. La voiture low cost, c'est pas l'avenir rêvé non plus.
Ça doit se terminer. Désolé, Mathieu Delahousse, on a pas eu trop le temps pour vous entendre sur cette histoire.
C'était la loi Sapin 2, en tout cas.
Exactement. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Moutet, d'être passée ce soir. Merci, Arnaud Vivian. Mathieu Delahousse, la une de l'Obs, d'ailleurs, cette semaine.
Macron, le patron, comment il va réformer la loi du travail? Pascal Richer et Sophie Fay qui racontent ce combat qui se prépare.
À trouver donc dans l'Obs, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, demain, Henri Vernet.
C'est une interview de la nouvelle ministre de la Santé, Mme Buzyn, qui explique notamment, qui donne quelques annonces sur le système vaccination en France.